Elle est le programme de ce 5 à 7 du mercredi 21 avril 2016. L'antispécisme est-il un humanisme? C'est la question que nous allons poser à 18h20 dans Du grain à moudre. Les animaux ont des droits, mais jusqu'où les faire coïncider avec ceux des hommes? Les révélations de violence infligées aux animaux d'élevage obligent à repenser la pertinence des discriminations entre espèces, mais s'agit-il d'un progrès ou d'une régression? Eh bien, nous en discuterons avec Émeric Caron et Chantal Delsol. 18h, ce sera le journal présenté par Tara Schlegel. On apprend aujourd'hui qu'il y aurait eu récemment un naufrage en Méditerranée qui aurait fait jusqu'à 500 morts. C'est en tout cas le bilan établi pour l'instant par le Haut Commissariat aux réfugiés. 17h55, les carnets de l'économie de Dominique Rousset en compagnie de Michel Aglietta pour parler de l'histoire et du pouvoir de la monnaie. Et tout de suite, c'est sur les docks. Bonjour Irène Omanianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Notre société a été confrontée aux manifestations pour ou contre le mariage pour tous. Dans les familles, les églises et la société s'est opérée une fracture. Si pour les protestants, le synode du 17 mai 2015 était parvenu à faire adopter à une écrasante majorité 94 voix pour, 3 contre, une mesure autorisant la bénédiction des couples de même sexe, les fidèles n'étaient pas du tout sur le même tempo. En janvier 2016, on pouvait lire dans La Croix qu'entre 200 et 250 personnes étaient réunies dans l'Est parisien pour lancer le courant des attestants au sein de l'Église protestante unie de France, à la suite des actions initiées par les pasteurs Gilles Boucaumont et Caroline Bretonnès, tous deux officiants au temple protestant du Marais à Paris.
Et Stéphane Bonnefoy et Guillaume Baldi ont enquêté sur ce qu'ils appellent l'homosexualité à voix feutrée.
Oui Hervé, nous voici donc conviés à les suivre, tant au foyer de l'âme à Paris, que dans le temple du Saint-Esprit de Nice.
Église protestante et homosexualité, une affaire de bénédiction. Stéphane Bonnefoy et Guillaume Baldi.
On va commencer tranquillement, parce que si on veut finir, il faut commencer. Peut-être avant de commencer le culte, faire quelques indications préalables, des indications d'organisation technique. Donc vous avez bien compris que c'était en même temps l'occasion de... Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez trop fort? Non, ça va. Là, vous m'entendez bien ou pas?
Si on parle
en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est pas le problème de la sono, c'est le problème de l'autorité pastorale. Et vous voyez, je n'en ai pas beaucoup, puisque ça ira mieux quand je vais commencer à chanter. Et puis, on remercie déjà la chorale qui interviendra aussi pendant ce chant.
De son synode national du 17 mai 2015, la très discrète Église protestante unie de France, incarnation du protestantisme historique depuis la fusion en 2012 des réformés et des luthériens, adoptait à 97% des voix la possibilité pour les pasteurs de bénir les couples de même sexe. Une révolution de velours? Pas tout à fait. Les 250 000 fidèles de la troisième religion française, incrédules, étaient pris sous le feu médiatique. Quoi? 2 années après les violentes manifestations engendrées par le mariage pour tous, une église allait marier les couples gays et lesbiens? Pour les protestants, la bénédiction n'est pas un sacrement. Toutefois, au sein de l'Église protestante unie, 10 à 15% de fidèles se réunissent autour du courant des attestants et menacent de faire sécession. Des fidèles claquent la porte, fragilisant cette petite église dont l'équilibre économique repose sur les deniers de ses membres. Le Conseil national de l'Église protestante unie, lui, fait le dos rond. Il regarde passer l'orage jusqu'à donner l'impression de ne pas assumer sa bénédiction. Une année plus tard, moins de 10 couples de même sexe ont été bénis. Alors, tempête dans un verre d'eau ou signe de bonne santé pour une Église qui se targue de faire dialoguer le libéral avec le fondamentaliste?
Vous êtes combien ici à Nice, la communauté protestante?
Ouais, en fait, j'ai du mal à savoir parce que moi, je partais sur 800 familles. Le président à l'Assemblée Générale dit qu'il y avait 2000 membres. Donc, 800 familles, 2000 membres. Voilà, il faut regarder qu'effectivement, ça dépend comment on compte. C'est pour ça que je disais que c'est quand même une église de moyenne importance quand même à l'échelle du protestantisme français, quoi. Bien, bien. Voilà. Donc ça, c'est Julien.
Ça va?
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Bonjour. Il faut que j'imprime des choses.
Ouais, vas-y, t'as ce qu'il faut, t'as besoin de quoi?
J'ai besoin de la clé du secrétariat. Je peux ouvrir l'ordinateur.
Mais Nadine, elle a ouvert hein, déjà.
Ok, c'est bon.
T'auras plus de chance que moi avec mon trousseau, j'ai mis 5 minutes pour trouver la clé de ci, 5 minutes pour trouver la clé de ça, mais j'en ai trop, moi, tu vois, c'est l'épaisseur de la tradition, tu vois, à la fin, t'as des clés qui ouvrent plus, mais on les garde, parce qu'on sait jamais, on se dit peut-être un jour je trouverai la serrure qui va avec. Écoute, je peux pas te dire, j'en sais rien, moi je l'ai pas allumé depuis des siècles. Pourquoi ça, il démarre pas? T'as essayé, Bible, Christ, Église, non. En général, on n'est pas très original. Martine, peut-être, si elle est un peu plus... Martine, si elle est égocentrée, on sait jamais. Elle a peut-être mis son prénom, hein, pas tout, je sais pas. Tu vas te mettre où toi du coup?
Je sais pas.
Parce que la petite salle elle est quand même.
Elle est un peu ravagée. Hein. Je peux prendre la grande, j'ai besoin d'un tableau.
Tu peux prendre la grande, de toute façon, moi je pense que je vais me mettre dans le bureau des pasteurs, il y a plus de.
Ok. Voilà. Je prends la grande alors. Alors, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que vous y mettriez, vous, dans une déclaration de foi.
Le premier élément qui nous réunit, c'est cette liberté que nous avons de croire chacun. Chacun à notre façon. Liberté de croire. Chacun à notre façon. C'est la possibilité justement de croire et de ne pas être appartenant à un dogme. C'est insupportable pour moi de penser qu'on doit répéter comme des moutons. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant de credos que de. De chrétiens.
Donc on a compris qu'il y a l'intime, ok, il y a ma foi, on ne m'impose pas mes dogmes, j'ai ma lecture de la Bible, ma réflexion avec les autres, etc. Et puis, j'ai un besoin de témoignage. Qu'est-ce que c'est témoigner?
Parler de l'essence de Dieu.
Parler de Dieu, oui.
Ce qu'on pense de l'essence.
Voilà, parler de Dieu.
Mais après, je pense que c'est aussi la tendance de l'être humain.
Les gays, en général, et les lesbiennes, font souvent une croix sur la religion dans la mesure où ils y voient justement un endroit où l'on est affaibli, où on est vulnérable, dans la mesure où on va s'en prendre plein la figure. Donc finalement, je pense que c'est un contre-témoignage ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut évangéliser si justement, dès le début, a priori, on n'accepte pas ces personnes? Et ce n'est pas en disant simplement « nous les acceptons, mais nous ne voulons pas leur accorder de droit, nous ne voulons pas d'accorder de bénédiction », c'est pas une vraie acceptation, c'est simplement une tolérance. Vous pouvez être là, mais si vous êtes autrement, c'est mieux. Non, je pense qu'il faut aller jusqu'à cette réflexion ensemble pour aller vers la reconnaissance des droits. Je crois que la communauté ne se rend pas compte du message qu'elle a renvoyé à la communauté gay. Elle a renvoyé un message très fort et c'est pour ça que bien souvent je me dis attention à ce que disent les attestants. Parce que nous, les croyants, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le recevoir, pas de problème, on peut en parler. Mais le message qui est renvoyé quand même à la communauté gay est très fort dans la mesure où la religion est la dernière homophobie instituée. C'est le dernier endroit où l'on a une institution qui est homophobe. Bien souvent, les églises, elles, n'autorisent pas le mariage gay. Elles n'autorisent pas les ordinations de personnes homosexuelles. Donc, finalement, le message qui a été renvoyé là est un message d'espérance, dans la mesure où, bien souvent, les gays ne vivent pas ouvertement leur foi. Et là, je pense que des vocations vont pouvoir apparaître dans la mesure où l'acceptation des personnes gays et lesbiennes va permettre justement à ces personnes de s'autoriser à se tourner vers le pastorat. Je pense qu'il y avait aussi un blocage du côté de cette communauté gay. De vous à moi, je pense que ça fait depuis tellement longtemps que les églises renvoient tellement de choses négatives sur la communauté homosexuelle qu'avant que la communauté homosexuelle revienne dans les églises, il va y avoir un sacré morceau de temps. à mon avis. Mais ça, je pense que l'Église n'en a pas vraiment conscience. Et je ne dis pas qu'il faille organiser une sorte de mission d'aller vers les personnes gays. Je pense qu'il faut prendre le temps. Nous ne sommes jamais arrivés dans notre communauté en tonitruant que nous voulions des droits. Les personnes savaient que nous souhaitions cette bénédiction et nous avons avancé pas à pas. Nous avons incarné cette demande. Nous avons discuté ensemble, nous avons prié ensemble. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Prendre le temps de se connaître.
Quand le synode, en mai 2015, a voté largement cette bénédiction, vous y attendez, vous y croyez qu'un jour les protestants y viendraient, Julien ?
Oui, on s'attendait quand même à ce qu'un jour il y ait effectivement la bénédiction, puisqu'on savait qu'il y avait cette réflexion depuis longtemps. En revanche, j'étais quand même assez incrédule. D'ailleurs, le jour où il y a eu le vote, la veille, j'en ai parlé à des amis protestants. Bon, oui, le lendemain, il y avait le vote. Bon, ben, pourquoi pas. J'en ai parlé le matin au pasteur. Bon, ça nous est complètement sorti de la tête. Et lorsque nous étions devant, mon époux et moi, nous étions devant la télé, nous avons vu l'annonce par les médias de ce vote. Et en fait, on ne s'y attendait absolument pas. On a même trouvé que c'était une décision un petit peu qui nous a retourné, qui nous a forcé à nous dire, eh bien maintenant, il y a eu cette décision, il y a eu effectivement ce cheminement que l'on a fait ensemble, et nous allons continuer à cheminer jusqu'à justement la réalisation de cette bénédiction, c'est-à-dire ce fameux jour où nous avons célébré la bénédiction de notre mariage.
Comment vous avez reçu, vous, Christine, cette décision synodale ?
Énorme surprise. Énorme surprise parce que je pour avoir autour de moi en parler, je pensais qu'on allait voter un petit peu comme l'Église d'Alsace-Lorraine qui a dit on est trop dans le mouvement du vote, du mariage pour tous, des manifestations, c'est trop frais, c'est trop violent. Donnons-nous le temps. Donc moi, ce que je regrette, c'est la rapidité, l'absence de réflexion élargie et le côté peut-être on n'a pas osé aller à ce qu'on pensait être un affrontement alors que ça pouvait être simplement qu'un échange de pensées différentes. En plus, c'était très médiatique, ça a été médiatisé de façon dans toute la presse, hein, de façon très très agressive, hein, très presse, voilà, très presse people un peu, c'est-à-dire les gros titres, le mariage gay, les protestants votent le mariage gay à l'unanimité, à la quasi-unanimité. Enfin, c'était le gros titre, ça heurte ça.
Pourquoi vous êtes opposée à cette bénédiction, Christine ?
Je ne suis pas dans la Bible littérale. Dieu a dit, donc on va chercher, on va se battre à coups de versets publics. Non, moi, j'ai pas ce sens du combat. Moi, je suis plus dans le sens général. Ma réflexion, mes écoutes, mes lectures me font penser que le projet de Dieu et un couple de mari et femme. Donc je vois pas le projet de Dieu dans un couple de même sexe. Alors peut-être que je vais avancer, peut-être que je vais rester là où je suis, mais c'est surtout ça.
Vous connaissez très bien Julien.
Oui, tout à fait. Je suis très amie avec Julien.
Et son mari.
Ah oui, je connaissais son mari avant, d'ailleurs. Il était Pierre et est à l'église depuis 10 ans à peu près, avec le pasteur Lionel Tambon. Donc j'ai depuis très très longtemps.
Et vous avez déjà parlé avec Julien de cette question ?
Non, parce que et c'est vrai ça. Oui et non. C'est la première fois qu'on en parle parce que c'est pas une. Si vous voulez, ce n'est pas une raison de ne pas me réjouir de la joie de Julien. C'est pas mon opposition n'est pas une opposition à son mariage. Et Julien a le cœur et l'intelligence d'accepter que je ne me réjouis pas de ce mariage-là, mais je me réjouis de sa joie. Il a su faire la différence.
Qu'est-ce que vous avez joué ?
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et le deuxième, je ne sais pas. Pourquoi les radiateurs sont froids ?
Bon, on va commencer. Donc on va prendre un premier cantique, on va prendre le 51-02, jeunes et vieux.
Comment cette décision donc synodale a été reçue à Nice en tant que pasteur, vous comment est-ce que vous avez vécu le lendemain et aujourd'hui encore cette bénédiction, Thibaut de la Ruelle?
On avait déjà eu quelques années auparavant un couple dans la paroisse d'homosexuels qui avait déclaré leur homosexualité. Donc, je dirais, ça avait déjà été discuté. Il y avait déjà eu des discussions. Il y avait eu aussi évidemment des réactions assez négatives. Mais je dirais, voilà, l'Église avait cheminé. Hein, il y a un certain nombre de gens qui sont passés d'une conception, je dirais, abstraite à une conception très concrète parce que des frères à eux étaient concernés et donc ils pouvaient pas répondre sur cette question de la même façon, quoi. Voilà. Donc je dirais, ça a fait qu'effectivement, à Nice, ça a peut-être été plus facile que dans d'autres paroisses, qui avaient déjà du concret, je dirais. En même temps, ça a aussi été douloureux. On a aussi des membres d'église qui n'ont pas accepté cette décision et qui ont quitté. Donc c'est aussi quelque chose de quand même dramatique et que je trouve moi personnellement douloureux. Mais voilà, il y a quand même, je dirais, un consensus, quoi. Voilà. Puis des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec cette décision n'ont pas estimé que ça remettait en question leur appartenance à cette Église et la communion fraternelle, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble la communion du Christ pendant le culte et pendant toute la vie de l'Église, quoi. Voilà.
Et vous-même, quelle était votre position sur cette question de la bénédiction des couples homosexuels?
Très honnêtement, je ne connaissais pas d'homosexuels. Bon, en tout cas, je croyais ne pas en connaître, hein. Bon, parce qu'effectivement, depuis que la loi du mariage pour tous est passée, on s'aperçoit que bon, voilà, il y a des gens qui se révèlent, qui se révélaient pas avant, et donc ça a changé quand même, je pense, socialement beaucoup de choses. Bon.
Pour vous, y compris.
Mais pour moi, y compris, effectivement, parce que j'ai découvert, que j'avais des amis homosexuels que je ne savais pas, que eux-mêmes le savaient pas, manifestement. Enfin, ça a quand même déclenché beaucoup de choses. Donc ça, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un avant et un après, et qu'effectivement. Je vois pas très bien comment on ne peut pas prendre acte de ce changement de société, quoi. Je veux dire, on peut pas faire comme s'il y avait rien eu. Bon, l'homosexualité interroge les gens, les interroge sur leur identité sexuelle et manifestement ça inquiète beaucoup de monde. Bon, ça je crois que c'est inévitable. Et il faut avoir la sérénité de le reconnaître. Moi aussi, sans doute, au début, quand j'ai commencé à me pencher sur ces questions, sans doute que ça questionnait mon identité sexuelle, et donc, il y a une sorte d'insécurité qui est produite, et donc, on peut, des réactions, passionnelles, pulsionnelles, viennent sans doute de ce que ça peut inquiéter, mettre en question, en doute, ce qu'on croyait bien établi, à savoir notre identité sexuelle. Au moins dans un premier temps cette peur, après on la dépasse, on la travaille, chemine avec ça. Voilà. Ensuite, évidemment, la manière d'interpréter les Écritures, la manière de comprendre la loi, le péché, enfin toutes ces grandes notions théologiques se rajoutent là-dessus. Alors après, est-ce que c'est vraiment de la Bible qu'on vient, ou est-ce que c'est de cette peur que ça vient? Ça, encore une fois, hein, ça, je pense que ça dépend les gens. Mais enfin, tout ça est bien mêlé. Voilà.
pour Julien, il y a une autre façon, un autre couple qui peut être béni, au-delà, sans besoin d'altérité. Et pour moi, c'est un couple avec altérité.
L'Église qui ne veut pas bénir ne reconnaît pas cette bénédiction de Dieu. Mais les couples comme le mien, qui vivent en prière et qui vivent la foi, se sentent profondément bénis et ne se sentent pas à côté du plan de Dieu. Ils se sentent dans le plan de Dieu. Donc c'est pas, il n'est pas là le débat, en fait, dans la mesure où on se sent déjà profondément béni. C'est l'Église qui ne le reconnaît pas.
Non, l'Église va le reconnaît.
L'Église le reconnaît, voilà, oui. Tout à fait.
Mais quand tu dis on se sent profondément béni, que fais-tu donc alors de mon argument? Qu'est-ce que tu réponds à mon argument sur l'altérité?
Bien que je sois avec une personne qui n'est pas dans une altérité biologique avec moi, c'est quand même une autre personne et on est complètement en altérité et en face à face, pareil. Même si c'est pas une altérité biologique, on est deux, oui, deux personnes très différentes en plus.
On peut me dire, mais c'est des mots, non, c'est homme et femme. Vous êtes deux, mais pareil.
Nice, ici, c'est une petite communauté. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire, ça a été du dialogue? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient plutôt hostiles? Comment est-ce qu'elles se sont manifestées?
Alors, en fait, l'hostilité réelle, elle est apparue au moment où nous avons pris des engagements dans l'Église, puisque je suis aussi prédicateur laïque. Et ensuite, l'hostilité, elle a été extrêmement marginale. Et les personnes hostiles sont plutôt hostiles aux pasteurs. Aux pasteurs donc précédemment qui acceptaient notre présence tout simplement dans l'Église, et ensuite notre pasteur actuel Thibaut qui à mon avis à celui qui a été en première ligne et qui a pris le plus de violence sur lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a supporté toute la violence qui nous était adressée. Et d'ailleurs je lui ai dit un jour à Thibaut, je lui ai dit, tu es en train de prendre toute la violence que les homos ont subie depuis des générations et des générations. Cette violence est en train de se cristalliser sur les célébrants.
Le Conseil national dit à un moment que il a souhaité être attentif aux aspirations de ses contemporains.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'Église vive dans la société et qu'elle soit complètement en accord avec ses contemporains. Je pense au contraire que le christianisme, le message du Christ, est un message complètement subversif. Dieu a choisi les choses folles pour faire honte aux sages, et je pense justement qu'il y a un message extrêmement subversif dans le christianisme, et cette décision, à mon avis, elle est subversive et à contre-courant. On s'attend quand même à ranger les églises, les institutions religieuses, dans des cases plutôt garantes d'une certaine tradition morale. Le fait que l'Église, au contraire, aille vers des communautés qui ne sont pas a priori accueillies, ça c'est subversif.
Là, c'est pas l'argument que le Conseil national a utilisé. C'est l'argument contraire, c'est-à-dire on est dans le mouvement sociétal. Toi, tu penses qu'on doit être en dehors?
Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette formulation du synode national, celle-ci de formulation, hein, pas le reste, dans la mesure où, à mon avis, c'est pas pour ces raisons qu'on aurait dû prendre cette décision, c'est pas pour coller au temps, mais c'est justement pour aller vers des communautés où elle n'est pas attendue. L'Église doit aller vers les communautés où elle n'est pas attendue.
Oui, mais là, ce n'était pas une surprise, parce que l'État était déjà allé vers cette communauté, vers ces communautés qui n'étaient pas attendues. La loi Taubira est allée vers ces communautés.
Alors effectivement, s'il n'y avait pas eu le vote de la loi Taubira, naturellement, il n'y aurait pas eu cette décision, puisque comme tu l'as rappelé, il faut qu'il y ait d'abord le mariage civil. Et en fait, c'est, à mon avis, cette décision prise aussi vite, elle est subversive dans le sens où elle est complètement inattendue.
vous allez avancer, mais comme l'Église va aussi évoluer sur ces questions, fatalement, c'est fatal, Christine, pour vous.
Il faut pas se dire la société change, donc tôt ou tard, on sera obligé de changer. Moi, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Église est dans la société, mais l'Église n'a pas les mêmes mécanismes de fonctionnement que la société.
Vous auriez pu, par exemple, aussi rejoindre le courant des attestants.
J'ai eu la curiosité d'aller sur leur site et d'aller les écouter, enfin de voir. Je trouve ça extrêmement violent. Je trouve ça très agressif.
Le tour à l'extérieur.
Oui.
Pourquoi tu veux faire le tour à l'extérieur?
Parce que j'ai envie.
Mais je suis pas sûr que tu puisses le faire, hein. Il me semble qu'il y a une barrière à un moment donné, non?
Non, mais déjà fait, pas dans le jardin. Pas dans le jardin.
Ah, à l'extérieur?
Oui.
Non, pas à l'extérieur, t'es avec les travaux et tout. Là, c'est... Non, tu crois, tu sors pas de... Voilà, là on est dans le temple du Marais, juste à côté de la Bastille.
Gilles Boucaumont.
Il a la particularité d'être une ancienne chapelle des Sœurs de la Visitation, donc c'est un petit lieu, puisque c'était pas une église paroissiale, et c'est le premier lieu qui a été donné historiquement aux protestants, et donc c'est ici qu'a eu lieu le premier culte légal dans Paris, puisque jusqu'à Napoléon et au Concordat, les protestants n'avaient pas pratiquement l'autorisation de vivre leur foi dans Paris intramuros. Et c'est un lieu qui aujourd'hui rassemble pas mal de monde. C'est une paroisse qui a la particularité d'être relativement jeune, avec une majorité de gens entre 20 et 35 ans. Et donc on se retrouve dans ce lieu avec la particularité aussi de ce quartier, qui est d'être aussi un quartier juif, un quartier très marqué aussi par la communauté homosexuelle.
Pourquoi vous refusez de bénir les couples homosexuels ici au Temple du Marais?
Parce que pour nous, dans l'écriture, il y a un type de complémentarité dans l'écriture biblique des livres de la Genèse, un type de complémentarité spécifique dans le fait qu'il y ait du masculin et du féminin. Et pour nous, l'enjeu, c'est qui va être la personne de l'autre sexe qui va compléter ma vie. Et cette personne, elle est unique, elle n'est pas interchangeable, etc., etc.
Vous questionnez le rapport à la fidélité, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'un couple homosexuel, pour vous, n'est pas fidèle.
Non, j'ai pas dit qu'un couple homosexuel n'était pas fidèle, puisque d'ailleurs il y a des couples dans la paroisse qui sont ensemble. Je pense à ce couple pour lesquels on est allé à leur mariage civil. Ils sont ensemble depuis 18 ans et je pense qu'ils sont tout à fait fidèles.
Et donc si le couple homosexuel répondait à ces critères, vous ne les béniriez pas de toute manière?
Non, nous on les bénit pas parce que si vous voulez, on pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue dans la complémentarité homme-femme. Donc ça, c'est un critère que l'écriture biblique pose de façon non négociable. Exactement comme aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui disent qu'ils ont une sexualité totalement librement consentie entre un père et une fille. Et qui sont très heureux, très épanouis et tout ça, et on dirait pas pour autant qu'on pense que c'est une bonne chose, même si eux disent que c'est formidable, qu'ils sont totalement épanouis. Voilà, on pense qu'il y a des choses qui sont pas souhaitables.
Voilà. Certains vous accusent, Gilles Boucaumont, de vouloir guérir les homosexuels. Vous leur répondriez quoi?
Moi, je veux pas guérir les homosexuels, parce que l'homosexualité n'est pas une maladie, donc c'est pas le terme adéquat. Est-ce que c'est plus stigmatisant de dire à un homosexuel, mais est-ce que tu as la possibilité d'envisager ta vie sans l'homosexualité, que de dire à quelqu'un d'adultère qui est dans ma communauté et à qui je dis, mais que comment tu fais pour vivre ta vie sans l'adultère? Pour moi, c'est pas plus normalisant, c'est exactement au même niveau.
Mais l'adultère et l'homosexualité, c'est quand même pas la même chose. Enfin, on peut pas les mettre au même niveau.
Mais pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'adultère, c'est un refus de certaines limites, et l'homosexualité, c'est aussi un refus de certaines limites.
Vincent Subac, vous êtes pasteur au foyer de l'âme à Paris.
La question de la conjugalité dans le projet de Dieu impliquerait la différenciation sexuelle homme-femme pour les opposants à la bénédiction.
Moi, je pense qu'il y a des traces d'homophobie hein, quand même. Là, ils s'en défendent. Et ça, je crois qu'ils sont sincères, hein, franchement. Mais quand même, je veux dire, à ce point, c'est quand même un peu problématique. Alors, je pense qu'il y a ça plus ou moins inconscient. Dire. Mais ensuite, il y a un courant qui traverse nos églises en général et les religions, même en particulier, qui est le fondamentalisme, hein, le communautarisme religieux, des choses comme ça. Le protestantisme n'y échappe pas. La question qui se pose, qui est derrière, c'est de savoir est-ce qu'on applique un fondamentalisme biblique vraiment à la lettre. Si on a ce présupposé, on peut aller très loin, je veux dire. Ou bien est-ce qu'on met les textes en perspective avec l'histoire, le contexte dans lequel ils ont été écrits? Auquel cas, on peut avoir des réponses qui sont différentes. Et puis, il y a une troisième lecture qui va dans le sens de dire, ben, où mettons le curseur, finalement, le curseur d'un Dieu qui se révèle dans une relation privilégiée avec Israël, dans l'Israël ancien, puis qui déborde avec le Nouveau Testament, la nouvelle deuxième alliance, et donc avec une notion de l'amour qui est à la clé. Donc du coup, si on réfléchit sur cela, on dit ben oui, effectivement, si c'est l'amour qui est primordial, l'amour de Dieu pour les hommes, même si l'amour entre les êtres humains n'est pas l'amour de Dieu, évidemment, je veux dire, il faut repenser la question complètement et garder des textes où il y a des interdits qui sont très clairs contre l'homosexualité pour dire voilà, ce sont des textes qui sont datés, qui avaient leur valeur à l'époque, qui correspondaient à des manières de voir, de vivre, etc. Ben, aujourd'hui, ces textes sont obsolètes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils soient inintéressants. Mais il faut faire attention, si on prend les textes du Lévitique, qui sont en général cités, ou la première lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, où là aussi l'homosexualité est condamnée, il faut faire très attention, si on va dans ce sens, qu'on peut aller très très loin, je veux dire, hein, parce que les interdits dans la Bible, ils sont considérables, et ils sont punis de mort. Le Lévitique est écrit aux alentours de l'exil à Babylone, dans une période où Israël ne compte plus sur l'histoire. Ils sont que quelques milliers, c'est trois fois rien. Et ou bien ils disparaissent de l'histoire, ils sont dilués dans l'empire assyro-babylonien ou perse qui prend la suite, ou bien ils se replient vraiment sur eux-mêmes, ils bétonnent vraiment au niveau de la loi et surtout de leur identité. Alors, l'identité des Juifs, c'est d'être dans l'axe de la promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob d'avoir une descendance et une terre. Ouais, c'est quand même extrêmement important. Et donc, du coup, il faut être fils d'Abraham, Isaac et Jacob pour être au bénéfice de cette bénédiction qui a été dite à Abraham. En conséquence de quoi, tout ce qui va brouiller les cartes de la succession génétique et légale, va mettre Israël en péril, et en péril de mort, on dit, hein, compte tenu de la circonstance historique. Et donc du coup, les interdits sont très forts à ce niveau-là, je veux dire, parce qu'il y va de la survie d'Israël à ce moment-là. Alors moi, je comprends tout à fait les textes du Lévitique dans cette optique, hein, et ils sont justifiés d'ailleurs d'une certaine mesure à l'époque, hein, je veux dire, voilà. Donc si on avait appliqué un fondamentalisme biblique, il ne faudra pas jeter la pierre à certaines religions qui lapident les femmes adultères aujourd'hui. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, il faut faire attention, quoi. Je veux dire, il faut avoir des cohérences dans son discours, il faut être bien au clair avec les présupposés qu'on a au départ, etc. Maintenant, moi je suis très respectueux de la pensée des autres. C'est vrai que si moi j'ai un pasteur en face de moi, un attestant qui dit moi les couples homosexuels, je peux pas les bénir parce que ça correspond pas à ma manière de voir dans la Bible. Je dirais bon ok, il y a des textes bibliques, je respecte la manière de lire la Bible à ce moment-là. Voilà, mais moi j'ai pas cette manière de lire la Bible et au foyer de l'âme on l'a pas du tout. Hein, la manière de lire la Bible au foyer de l'âme est très spirituelle, très ouverte sur le monde. Je suis pas du tout dans la problématique des attestants.
Bah, c'est-à-dire vous avez le choix avec les Écriture. Hein. Soit vous considérez qu'il y a une pertinence, il y a des éléments qui sont effectivement culturels et avec lesquels on peut prendre distance. Mais si à ce moment-là, je considère que la complémentarité homme-femme, c'est quelque chose qui est optionnel, je peux aussi considérer que l'amour du prochain, c'est quelque chose d'optionnel, que l'amour pour les ennemis, c'est quelque chose d'optionnel, que le fait d'honorer Dieu, c'est quelque chose d'optionnel. Et à ce moment-là, si je suis le critère si ma propre raison est le critère permanent de tous les préceptes qui sont dans les écritures bibliques et plus largement dans la foi chrétienne, ben on va tomber rapidement dans une espèce de post-christianisme où la Bible sera vaguement un matériau littéraire lointain qu'on regarde avec assurance, en étant sûr qu'on est quand même beaucoup plus intelligent et beaucoup plus mature et beaucoup plus humaniste que ces pauvres imbéciles qui ont écrit il y a 2000 ans. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans des textes comme ceux-là. Et pour moi, ça fait pas partie, cette complémentarité homme-femme ne fait pas partie de quelque chose qui serait un particularisme sociétal propre au groupe des Hébreux d'il y a 2000 ans. Il y a quelque chose d'assez transversal, ne serait-ce que par rapport au fait que la transmission de la vie s'opère assez mécaniquement dans cette complémentarité homme-femme.
Mais on est obligé d'interpréter, non? Autrement, on se retrouve comme il y a 2000 ans, où on se retrouve, comme le préconise le Lévitique, à lapider les homosexuels.
Bien sûr qu'on interprète.
Donc oui, où est le curseur, en fait, dans cette lecture?
Oui, mais c'est pour ça que chacun pose le curseur là où il veut, mais... Sur la formulation de la complémentarité homme-femme, elle est vraiment décrite comme étant justement le lieu où l'humanité se retrouve image de Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement vrai derrière ça. Depuis que le Christ est venu, toutes les lois de type de condamnation, lapidation et autres ne sont plus en fonctionnement parce que le Christ a dit que c'était pas lui qui jetterait la pierre, justement. Et il l'a dit à propos d'une femme adultère, hétérosexuelle. Mais pour autant, oui, bien sûr que tout le monde interprète, mais... si on commence à lâcher des fondamentaux du type de la complémentarité homme-femme, à ce moment-là, pourquoi continuer à mettre l'amour au centre de la proposition chrétienne?
À Nice, au temple de Nice, on a rencontré un prédicateur homosexuel. Ce serait possible ici, dans votre paroisse, au Marais?
Non, ce ne serait pas possible ici, non.
Richard Benhamès, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Pourquoi avoir décidé de déclarer votre homosexualité ?
J'ai pas vraiment décidé. Les choses sont passées de manière beaucoup plus catastrophique que je le souhaitais. C'était quoi, il y a une quinzaine d'années, un peu moins. J'ai eu un moment où je suis tombé amoureux d'un garçon pour lequel ça méritait de, comme on dit aujourd'hui, de sortir du placard, quoi. Alors d'abord, quand même, moi, j'étais marié. À l'époque, nous avions, mon ex-épouse et moi, deux enfants. Donc il a fallu aussi assumer un divorce. J'étais à l'époque pasteur dans quelques villages du côté de Nîmes. Une de ces personnes a répandu la nouvelle de manière suffisante pour que voilà, ça m'explose à la figure. Et une fois que ça m'explosait à la figure, il n'était absolument pas question que je dise mais non, que je nie ou que je dénie la chose. Moi, mon souhait, ça aurait été d'habituer peut-être progressivement les gens à la chose. On était dans la période des années 2000, d'une première volée de réflexion sur Église homosexualité. Et j'avais le sentiment que la période était favorable. Et moi, mon problème, c'était pas d'affirmer mon homosexualité. Moi, ce que j'ai annoncé, c'est que j'avais l'intention de vivre avec un autre garçon. Voilà. Dans la mesure où cette annonce a eu des effets plutôt explosifs, On estime que, voilà, votre présence dans la paroisse met en danger l'unité de la paroisse, etc. Et on vous invite à chercher un autre poste. Et puis, si vous refusez l'invitation, qui est toujours une invitation, dans ces cas-là, le Conseil national peut vous donner l'ordre de chercher un autre poste. Et puis, si vous ne trouvez pas de poste, on vous dit, ben voilà, tu ne peux plus être pasteur, puisque personne ne veut de toi comme, comme pasteur. Et il s'est trouvé que j'ai trouvé un autre poste, qui était un poste, au fond, de journaliste, chargé de communication, informateur régional, on dit chez nous. Donc j'avais la responsabilité d'un mensuel protestant régional, et puis la responsabilité de la mise en place d'un site internet.
C'était une manière de vous écarter de, des paroissiens, ou c'était, vous l'avez vécu comment?
Moi, je l'ai vécu... je vais vous dire comment je l'ai vécu. Il y a des copains qui m'ont dit, c'est une mise au placard. J'ai dit, le placard, on va en faire une vitrine. Je suis chez moi dans cette église. J'ai besoin qu'on m'accueille. Je suis chez moi. Depuis le jour de mon baptême. J'ai pas besoin qu'on m'accueille. J'ai pas besoin qu'il y ait des gens qui me disent « Oh, tu es homosexuel, on t'accueille quand même. » Et je me suis toujours comporté comme si j'étais chez moi. Y compris pendant mon coming out, c'était mon église, j'étais chez moi. C'était une histoire de famille, en fait, presque. Les membres des églises protestantes unies de France sont ni plus ni moins homophobes que les autres. J'ai pas de statistiques, hein, j'ai pas d'études sociologiques précises. Je pense que la proportion de gens viscéralement homophobes dans les fidèles des églises protestantes unies de France, c'est à peu près la même que sur l'ensemble de la population française. Alors on tombe sur des questions très pratiques. Qu'est-ce que ça fait dans un village? Il y a quand même des zones où il y a un protestantisme rural. Qu'est-ce que ça fait dans un village quand il y a deux noms d'hommes sur la même boîte aux lettres sur la boîte aux lettres du presbytère? Moi, je pense que ça pose pas de problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pose des problèmes. C'est pas aujourd'hui que je vais vous dire, je connais des candidats au ministère pastoral qui se sont présentés en déclarant honnêtement leur homosexualité. Vous avez des gens pour qui non seulement le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme, mais l'homosexualité en elle-même est une tâche, un péché, qui n'est pas acceptable, donc il faut se laver. On vous accueille en tant qu'homosexuel pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous sauver de la pente fatale vers laquelle vous mène l'homosexualité. Et cacher cette partie très importante quand même de votre identité personnelle, hein, au risque d'une révélation qui sera toujours plus ou moins explosive, c'est aussi une fragilisation. Enfin, ce qu'on attend quand même, en tout cas d'un pasteur, d'un prédicateur, de quelqu'un qui est porteur d'un message, c'est un minimum de sincérité. Je me suis trouvé dans cette situation, je veux dire, avant mon coming out. C'était une situation intéressante, hein, existentiellement. En me disant, ça ne pourra pas durer. Je ne pourrais pas indéfiniment prêcher, exercer mon ministère de prédication, de prédicateur, en dissimulant cette partie-là de ma personnalité. Je ne pourrais pas. Et je trouve que c'est malhonnête d'exiger des collègues, et c'est malsain d'exiger des collègues qui ont cette orientation et qui la vivent plus ou moins... de manière plus ou moins dissimulée, c'est malhonnête d'exiger ça d'eux. Parce que c'est contraire, moi je dirais, aux exigences élémentaires de l'exercice d'un ministère pastoral. Après, il faut savoir quand même que l'église protestante du Dieu de France, c'est une toute petite église. Que le Conseil national, le président du Conseil national en particulier, ont la responsabilité première de maintenir l'unité de cette église. Et Dieu sait s'il y a eu du chantage à la sécession de la part d'un certain nombre de membres qui ont heureusement trouvé la solution de créer ce courant des attestants, pour moi je dirais sauver la face, mais c'est bien, et rester à l'intérieur.
Et pourquoi ne pas avoir quitté l'église protestante unie de France, Gilles Boucomont, et rejoint par exemple un courant évangélique dont vous seriez plus proche?
Parce que moi je suis réformé, je suis totalement réformé, je suis né dans une famille huguenote, et que je pense que une des forces de la réforme, ça a été notamment tous les mouvements qu'il y a eu dans les Cévennes, etc., dont moi aussi je suis directement l'héritier. Je vois pas pourquoi toute la légitimité du type d'évangile que nous annonçons, nous devrions nous mettre en retrait alors qu'on n'est pas moins légitime que les autres. Voilà. Je pense que ça serait assez amusant de comparer nos types d'affirmations et puis les types d'affirmations des réformateurs et puis les types d'affirmations des ultralibéraux. On verrait qui est réformé.
D'ailleurs, vous m'avez dit lors d'un précédent entretien, l'avenir est à nous.
Oui, moi je pense que l'avenir est à nous, parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas intéressés par une église qui finalement ne dit que les valeurs déjà en place dans le monde et dans la société. C'est pour ça que, de fait, aujourd'hui, les paroisses qui ont une coloration plus confessante sont relativement pleines. Parce que ça correspond à une époque où les gens, ils ont besoin de repères, ils n'ont pas besoin de gourous, ils n'ont pas besoin de légalisme et tout ça, parce qu'ils sont quand même intelligents. Hein. Voilà, je pense qu'il y a d'autres propositions qui sont possibles, et de fait, je constate que voilà, il y a plein de gens qui viennent ici au culte, qu'on refuse des gens, pas chaque dimanche, mais en tout cas chaque mois, et qu'on a un discours qui est beaucoup plus ouvert que ce que veulent bien dire les personnes qui essayent de nous stigmatiser.
De la ruelle.
Et à côté de ça, il peut y avoir une autre compréhension qui est plutôt une compréhension universaliste, et c'est la mienne, hein, je crois être vraiment dans cette logique-là, où on pense que nos particularités ne font pas notre singularité en Christ. C'est-à-dire, au fond, notre singularité, c'est l'accueil d'un Dieu qui s'est fait père, qui nous déclare fils et filles au-delà de toutes nos particularités, et donc nos particularités sont complètement secondes. Au fond, elles interviennent plus. Et là, vous avez un texte fameux de Paul qui dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre, et on pourrait rajouter ni homo ni hétéro. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de particularité. Ça existe évidemment dans la réalité sociale et tout ça, mais c'est second du point de vue de l'Évangile. Voilà. Donc voyez bien que on peut pas être dans une espèce uniquement de front, les pour, les contre, la Bible contre je sais pas quoi, le monde, c'est pas comme ça. Voilà, on peut pas réduire les choses comme ça. À un moment donné, quand il y a eu la loi sur le Pax, les mêmes qu'aujourd'hui, au fond, hurlaient en disant que c'était inadmissible, aujourd'hui expliquent clairement que, au fond, la bénédiction des couples homosexuels est mauvaise. Il y a déjà le Pax. Donc, on se dit, ils avancent aussi. Donc, il y a une escroquerie à supposer qu'on est les seuls à avancer. Je veux dire, tout le monde avance. Ça, c'est pas soutenable de prétendre qu'on n'avance pas. Voilà. Après, avance, ça veut pas dire que c'est, en soi, c'est bien, hein, encore une fois. Les progrès sociaux ont toujours un prix. Donc, on a des nouvelles problématiques qui vont se poser et qui feront qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, hein. Donc, voilà.
On a un paysage familial qui bouge énormément.
Vincent Hubach.
Il y en a aux États-Unis, vu ce qui se passe à l'heure actuelle avec toute l'idéologie du transhumanisme qui est arrivée en France au niveau du grand public il y a seulement quelques mois, on commence à en prendre conscience. Et on va avoir des modèles familiaux, mais alors vraiment inédits en France. J'ai fait une allusion aux transsexuels. Il faut faire attention qu'ils sont assez nombreux aux États-Unis pour être un groupe de pression qui a fait plier l'armée américaine, l'US Army, donc c'est quand même pas rien. Vous allez avoir des modèles familiaux où il y aura trois parents dans le modèle familial. La longévité que promet le transhumanisme implique qu'il y aura des couples qui vont être de plus en plus, je dirais, limités dans le temps. En ce sens que les gens à 50, 60 ans auront une forme fantastique dans les années à venir, tel que le voit le transhumanisme, et que donc, ben, au bout de 30 ou 40 ans de vie commune, il se peut très bien que tout à fait normalement, les garçons ou la fille fassent d'autres expériences. Vous avez des gens qui changent, qui vont changer de sexe, donc en cours de route aussi. Et donc, là, il y a des questions qui se posent et qui vont être extrêmement difficiles à résoudre. Parce que tout le modèle familial va voler en éclats. Et toute l'éducation aussi. Donc voilà. Alors je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que c'est très compliqué. Mais c'est intéressant aussi. C'est le monde qui change, qui bouge, qui évolue. Mais là, il y a des défis majeurs. Il y a des défis majeurs, et c'est vrai que notre affaire de bénédiction de couple homosexuel va nous sembler du petit lait à côté de ce qui arrive. Donc voilà. Mais je crois que c'est pas notre problème, en fait. Je crois que c'est pas notre problème. Paul, il prend la société telle qu'il la connaît. C'est pas un sociologue, c'est pas un politologue, Paul. Mais il dit, dans cette société dans laquelle je suis, c'est de l'amour qu'il faut mettre. Je crois qu'il faut partir de ce type de réflexion par rapport à tout ce qui se présente dans la modernité, et en particulier en ce qui concerne les couples homosexuels, de dire, ben voilà, on a cette réalité en face de nous, ben dans ces couples homosexuels, il faut qu'il y ait de l'amour, qui est, c'est ce qu'ils prétendent vivre, avec sincérité, je dis prétendre n'est pas le bon mot, mais c'est ce qu'ils vivent avec sincérité. Bon, du coup, pourquoi pas une bénédiction à ce moment-là, je veux dire, voilà.
Je vous invite à vous lever, pourquoi ? Chantez le cantique 46-09. Le cantique 46-09, nous chantons les strophes 1, 4 et 5. Les strophes 1, 4 et 5 du cantique 46-09.
Église protestante et homosexualité, une affaire de bénédiction. À Nice, avec le pasteur Thibaut de la Ruelle, Christine et Julien. À Paris, avec les pasteurs Vincent Hubach, Gilles Boucomont et Richard Benamias, pasteurs de l'Église protestante unie de France à Amsterdam. Anne-Lise Signoret. Mixage, Philippe Thibault. Attaché de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omilanenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Guillaume Baldi pour Sur les Docs.
Un documentaire à réécouter sur franceculture.fr.